sur la bande. Are you ready?
On met notre casque, nos gants et tout notre équipement.
Ouais.
Pour la game, on est prêt à jouer chaque moment.
Chaque moment.
Pour une bonne mise au jeu avec le ref, on est baveux. Mise en échec quand on peut, tu sens la victoire dans nos yeux. Prêt pour la victoire, on peut soulever les gros trophées. La coupe, on veut l'avoir, notre équipe est surclassée. Autour du filet, toutes les équipes sont admises. Malgré les coups de sifflet, sur la place, tout est permis. La saison 5, c'est parti, yeah, il aura pas de chichi. Ici pour toute la vérité, je vous le promets, je vous le dis.
Ouais.
Sur la bande, c'est la meilleure équipe, toujours là pour les hits. Notre succès a pas de limite.
Boom, boom.
Zeb est back avec de nouveaux invités. Avec passion pour jaser, toujours là pour commenter.
Oh,
le
ouais.
Show va commencer, faut surtout pas le manquer.
Non.
Sur la bande, faut écouter. Ici, c'est le podcast du hockey.
Du hockey.
Bonjour Loïc.
Salut Sébastien.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Yes, des épisodes spéciaux LNH repêchage qu'on va faire. Je voulais commencer par te présenter premièrement pour qui tu es puis tes réseaux sociaux aussi.
Yes, fait que mon nom c'est Loïc Dupéré. Je suis un étudiant au collège CRTQ à Québec. Dans le fond, mon but, moi, c'est d'être un animateur dans le domaine. Mais tu sais, j'ai toujours une passion pour les prospects, dont en majorité, comment je peux dire ça? Tout simplement ceux qui ont un potentiel ou tout simplement ceux qui ont un avenir au hockey. Donc, on va commencer avec Gavin McKenna.
Yes.
5 pieds 11, 160 livres, 18 ans. Moi, ce que j'aime de McKenna, par exemple, c'est sa vision de jeu. Je l'ai catégorisé avec un A+, IQ. Son tir passe à... Mais en fait, je vais commencer par expliquer le potentiel de la... Potentiel global, les aptitudes générales du joueur,
ouais.
Potentiel NHL, les chances du joueur à atteindre son floor dans la Ligue nationale. La vision de jeu de Gavin McKenna, j'ai pas besoin de faire un dessin.
Oh,
c'est un des joueurs les plus dynamiques du repêchage. Finalement, j'ai mis le tir puis le passe ensemble. Pourquoi? Simplement parce que ça vient ensemble. Comment je peux dire ça? Excuse-moi, j'ai trop de choses qui arrivent.
Pas grave.
Mon est malade.
Je vais faire du montage, j'appuie.
Attends un peu, là. Je vais juste régler un affaire.
Ouais, pas de trouble.
OK, bon. Gavin McKenna, capable d'étourdir une défense tout simplement en créant des jeux, en se promenant avec la rondelle. Mais son physique va être à travailler. Pourquoi que je mets ça dans son tir? C'est sa dégaine. Écoute, il a une force incroyable avec ses pieds, mais est-ce qu'il va être capable de transmettre ça dans la Ligue nationale? J'ai des doutes. Écoute, il a quand même réussi à avoir 41 buts, 88 passes cette saison, mais ses buts, on va le voir l'année dernière, mais ses buts dans la WHL, c'était souvent en avant du filet quand la défensive était quand même poreuse. Je vais vous donner un exemple. En séries éliminatoires, Gavin McKenna avait de la difficulté à se promener dans les espaces, même s'il est capable de s'en créer. Dans la Ligue nationale, ce ne sera pas le même style de défensive. Ce ne sera d'ailleurs surtout pas le même style de jeu physique. Ses passes. Je l'ai noté avec un A+. Il va clairement dominer la Ligue. Je pense que... Comment je peux dire ça? On n'aura pas besoin de s'imaginer Gavin McKenna avoir des hauts et des bas dans la Ligue nationale avec son style de jeu offensif. Sa défense, par exemple, j'ai mis un solide 5. Écoute, je pense que ça va être la chose à travailler. J'imagine, par exemple, qu'il va être capable de le faire. T'sais, c'est quand même un joueur qui a un super IQ, un super potentiel. Toi, tu penses que Gavin McKenna va être capable de travailler son jeu défensif? Ou bien tu penses qu'il va être capable de juste s'adapter, mettons, à mettre son poids, à être capable de rouler les mises en échec, mettons?
Je l'espère pour l'équipe qui va le repêcher parce que, tu sais, on le voit, mettons, dans la première année d'un joueur, que c'est souvent le plus dur, c'est s'adapter à la défensive de la Ligue nationale. C'est de revenir quand il y a des contre-attaques. Ça va falloir qu'il s'améliore là-dessus aussi.
Moi, tu vois-tu, j'espère qu'il va être capable de s'adapter, mais surtout... T'sais, on va se le dire, là, c'est les Maple Leafs de Toronto qui vont le repêcher. Les Maple Leafs n'ont aucun défenseur capable de mettre une structure fiable. Leur seul défenseur qui est structuré, c'est Chris Tanev. Chris Tanev va manquer la majorité de l'année prochaine. Mm-hmm. Même si tu drafts un Gavin McKenna, dans sa, exemple, sa pire force de caractère, sa pire caractéristique de joueur, c'est sa force de caractère, on va se le dire. Gavin McKenna, c'est un joueur qui se décourage beaucoup sur la patinoire quand ça va pas bien. Fait que si tu mélanges ça à jeu défensif, force de caractère, j'ai hâte de voir comment on va l'entourer puis comment on va lui montrer le style de la Ligue nationale. J'ai quand même espoir en ce joueur-là, tu sais, je veux dire, tout le talent du monde. Son patinage, c'est un A+, bien sûr, puis son jeu physique, je l'ai quand même mis à B-. Pourquoi? Parce qu'il est quand même combatif. Tu sais, en zone offensive, il va pas vouloir se laisser marcher sur les pieds. C'est vraiment en zone neutre puis en zone défensive que j'ai hâte de voir comment qu'il va s'adapter. J'espère que les Maple Leafs vont garder Craig Berube tout simplement.
Ça, je voulais dire. C'est tout simplement.
Je le sais que ça a été une saison catastrophique à Toronto, OK? Mm-hmm. Ça, je ne l'enlève pas. Don't get me wrong. Mais il y a une chose qu'il faut que vous preniez en considération, c'est quel type de joueur que vous allez amener dans le club. Vous avez besoin quand même d'une structure fiable. Je le sais. Puis là, je le sais que vous allez me dire, « Ouais, mais Nylander, Matthews, ça n'a pas fonctionné. » Pensez-vous sincèrement que les chances qu'Austin Matthews reste avec le club soient largement supérieures aux chances que vous pouvez rater Gavin McKenna? Mm-hmm. Vous comprenez le point que je vais amener?
Ouais.
Bref. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va finir. Son potentiel NHL, je l'ai mis à A. Tout simplement parce qu'il y a tout le talent du monde. Ça, je l'ai dit. C'est comment il est capable de le transmettre dans les trois zones qui m'inquiètent. Puis son potentiel global, je l'ai mis à A+. Là, ça reste Gavin McKenna. Il ne sera pas le premier choix pour aucune raison. Gavin McKenna a quand même connu des bonnes saisons dans la WHL, mais une chose qui a retenu mon attention, c'est ses minutes de pénalité. Gavin McKenna n'est pas nécessairement un joueur salaud, mais il y a quand même beaucoup de minutes de pénalité. Ça va aller en détail. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'il va laisser traîner son bâton dans la Ligue nationale quand il va se décourager? Est-ce qu'il va être capable de faire des bonnes lectures du jeu? Parce que, tu sais, un accrochage par-ci parce que tu perds la rondelle, une main sur le bâton, on retient par là. C'est facile de déstabiliser un joueur, puis c'est facile de faire en sorte qu'un joueur ne reste pas dans sa game. Mm-hmm. Gavin McKenna, c'est un joueur de confiance. Si sa confiance est atteinte, est-ce qu'il sera capable d'atteindre son apogée? Son apogée, je l'ai mis à un 120 points environ. Pourquoi? Parce qu'il y a le potentiel d'être un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Mm-hmm. Je pense qu'à son floor, ça va être un joueur de 70-80 points. Mm-hmm. C'est quand même bien, mais c'est surtout, moi, à son pire qui retient mon attention. Mettons pour le fun, à son pire, tu penses que Gavin McKenna serait un joueur de 60 points, un joueur de 40 points ou tout simplement un joueur qui aurait de la difficulté à faire le saut dans la Ligue nationale?
Moi, je dirais 50-60, mais difficulté de Ligue nationale, ça me surprendrait, à moins qu'on ait un flop vraiment. Là.
Moi, ce que j'ai mis à son pire, c'est les blessures.
OK.
Parce qu'on n'a jamais vu McKenna manquer beaucoup de temps dans le junior ou dans la NCAA. Okay. Mais je pense que McKenna, c'est le type de joueur qui pourrait se faire vraiment brasser dans la Ligue nationale. Je vais donner l'exemple de Connor Bedard. Bedard, c'est un joueur que quand il va en avant du filet et qui veut payer le prix, c'est pas un joueur qui veut tricher nécessairement, qui joue en périphérie. Mais on l'a vu, Bedard, là, juste au cercle des mises au jeu, il peut manger des doubles échecs violents là, à l'endroit de la cage thoracique en avant du filet. Il peut manger des coups de bâton solides, sévères en arrière de la tête. Je pense que ça va être le même principe pour Gavin McKenna. Et je lui souhaite que ce scénario-là n'arrive pas. Mais si Gavin McKenna est un joueur qui devient propice aux blessures, moi, je pense que le fait qu'il pourrait avoir de la difficulté à s'installer dans la Ligue nationale soit une possibilité, ce que j'espère pas, mais je ne vois pas le scénario où Gavin McKenna reste en santé et ne fasse que du 50-60 points. C'est Gavin McKenna.
Ouais. Bon, ça, je voulais te demander, en début de saison, je pense que ces statistiques étaient moins là. C'était plus l'adaptation à la NCAA un peu plus, parce que ça, WHL, c'est une ligue un petit peu pas plus basse, là, mais le niveau de jeu est un peu moins intense.
Je pense que c'est la structure défensive. Tu sais, beaucoup d'équipes dans la NCAA, je vais donner l'exemple de Providence, c'est complètement des équipes structurées défensivement. Ils gagnent des matchs avec leur structure défensive, leur pinch des défenseurs solidement exceptionnel. Puis je pense que Gavin McKenna est rentré dans ce moule-là. Tu sais, c'est pas le joueur le plus dominant physiquement, il y a un très bon patinage, tu sais, ça je vais pas le nier, mais la force physique sur patin, puis l'équilibre. Même si c'est un bon patinage, parfois, tu peux te faire surprendre par des défenseurs plus gros. Puis, tu sais, Gavin McKinnon avait tout simplement que 18 ans, puis jouait contre des hommes de 23, 24, même des fois 25 ans, tu sais. Juste là, dans le junior, tu ne vas pas dépasser des joueurs de 20 ans. Fait que la force physique entre un gars de 24 ans puis un gars de 18 ans en tant que Gavin McKinnon peut être quand même, tu sais, selon moi, la raison qui a fait en sorte qu'il y avait de la difficulté à s'élancer. Je vais donner l'exemple de Caden Lindstrom. Lindstrom, qui était son coéquipier avec Medicine Hat, a tout simplement jamais lancé sa saison. Oui, il y avait des blessures au dos, mais la structure défensive faisait en sorte que Lindstrom faisait son pain et son beurre devant le filet des gardiens de but. Avec sa force, avec son lancer, avec sa dégaine, c'était difficile pour les autres joueurs de le tasser. Pour en revenir à McKenna, McKenna, lui, fait son pain et son beurre en rentrée de zone, en se promenant vers le filet. Mm-hmm. Tout simplement, il n'y avait pas l'espace pour le faire. Même si McKenna, comme je disais, avait un bon lancer, une bonne release, une bonne dégaine, le transfert de poids est peut-être un peu manquant aussi devant un gardien de la NCAA qui en a vu des lancers puissants avec des gabarits imposants. Bref, je pense que pour toutes ces raisons-là, McKenna a peut-être eu de la difficulté à lancer sa saison, mais ça ne l'a pas permis de rattraper le rythme une fois qu'il a compris comment que les structures de jeu pouvaient être, puis une fois qu'il a compris comment que tout était... Ouais, c'est pour ça que j'ai eu de la misère à me lancer au début. Ah, j'avais mon copine, bref, la vie tourne. Mais bref, ouais. Tout ça pour dire que Gavin McKenna a réussi à trouver sa façon de faire son pain et son beurre dans la NCAA en comprenant comment les structures défensives étaient.
Tu sais, on parlait tantôt de Toronto, c'est sûr qui repêche McKenna, mais est-ce que ça aurait été mieux pour eux autres d'avoir le deuxième choix ou le troisième choix pour faire une structure plus défensive?
Je pense que c'est choisir ton poison dans le cas de Toronto. Parce que moi, vois-tu, au début, là, si Toronto gardait leur choix, exemple, il n'y avait pas le premier pick. Dans aucun monde, j'aurais pu penser qu'il n'allait pas prendre Chase Reed ou Keaton Veroff. On va en parler plus tard de ces deux espoirs-là, mais tu as tellement de trous poreux à ta défensive que tu te dois d'avoir un stud, un gars sur qui tu vas pouvoir avoir confiance et bâtir pour le futur à ta ligne bleue. Je pense pas que ça va arriver. L'option qui pourrait arriver, c'est d'échanger un joueur qu'on a présentement qui ne casse plus les coches pour le futur. Peut-être pas un Austin Matthews. Écoute, Austin Matthews, on n'aura pas juste un choix au repêchage pour ce joueur-là.
Non.
Mais tu sais, un Nick Robertson, exemple. T'sais, tu peux échanger un Nick Robertson avec peut-être pas un Easton Coward, mais c'est un Danford. Je le sais que c'est un espoir intéressant à ta ligne bleue, un des seuls que tu as, mais est-ce que Danford va atteindre son... Est-ce que Danford va être un défenseur top 4 dans la Ligue nationale? Je pense pas. Mais un bon potentiel Ligue nationale, tu pourrais le transiger avec un espoir B ou un joueur de la Ligue nationale que tu as présentement qui a quand même une valeur pour aller t'avancer au repêchage. Exemple, un choix de fin de premier tour. C'est sûr que le défenseur n'arrivera pas cette année, mais au moins, tu as une police d'assurance qui va arriver pour le futur lorsque McKenna commencera à arriver à son apogée. Tu sais. Mais pour répondre à ta question, oui, dans un monde idéal, les Maple Leafs auraient repêché un défenseur. Chase Reed ou Keaton Veroff, moi, j'aurais arrêté ma sélection.
Tu as commencé les articles des 32 équipes pour les prospects. Avant la loterie, Toronto il était 32e.
Ouais, 100%. 100%.
C'est pas l'avenir. OK, avec le premier choix, plus belle, mais tu sais, ça risque que faut être des joueurs qui saillent dans ton club école ou dans le junior qui saillent meilleur que ça. Là.
Mais c'est complètement un. Comment je peux dire? C'est complètement un make-up call, si tu me permets l'expression. Tu sais, ça couvre une façade, mais ça ne remplit pas complètement le trou qu'il y a. Là. Bon. Ce qui tue les Maple Leafs, c'est vraiment les choix qu'on a faits avec nos choix au repêchage. Tu sais, je comprends le choix de Boston, tu as voulu amener Braden Carlo, mais le choix que tu as envoyé à Philadelphie pour Scott Laughton, j'ai de la difficulté à comprendre ça, surtout quand on se rend compte que ça risque d'être un choix top 10, les deux choix que tu as donnés. Ouais.
Ça n'a pas de sens. Gavin McKenna, tantôt tu as parlé de Bedard. Est-ce que tu compares un peu à Connor Bedard? C'est quel joueur le plus comparatif selon toi à Gavin McKenna?
J'irais avec un Patrick Kane. Okay. Connor Bedard, lui, je le mettrais peut-être plus à un... J'ai de la difficulté à donner une comparaison à Connor Bedard parce que vois-tu... Connor Bedard a un lancer légendaire, je trouve qu'il ne l'utilise pas assez dans la Ligue nationale. Non, je le sais qu'on ne lui donne pas l'espace, mais Bedard, je ne donnerais pas de comparatif. Je laisse vraiment le temps faire son œuvre. Tandis que Gavin McKenna, je vois vraiment du Patrick Kane en lui. C'est un joueur que, tu sais, le lancer ne sera jamais sa force, mais la vision du jeu. Puis, tu sais, il faut aussi comprendre les époques. Patrick Kane jouait dans le Dead Puck Era. T'sais. Patrick Kane serait dans son prime aujourd'hui, là. Il aurait pas mal plus qu'une saison de 100 points.
Ah non, c'est sûr.
Fait que, ah, pour les spectateurs qui disent « Ouais, mais McKenna va faire beaucoup plus de points que Patrick Kane », oui, mais c'est pas les mêmes époques. Patrick Kane, pourquoi Patrick Kane? Parce que le patinage est élite, la vision du jeu est élite, la défense reste à travailler. Patrick Kane n'a jamais été un joueur défensif. Non. Mais, par exemple, Patrick Kane n'avait pas peur d'utiliser son gabarit lorsqu'il avait la rondelle pour protéger la rondelle, comme Gavin McKenna. Les edges à McKenna, comment ils se déplacent de côté, sont exceptionnel. Ça me rappelle un jeune Patrick Kane avant ses blessures à ses hanches puis à ses chevilles. Mm-hmm. Bref, je pense que les comparaisons avec Patrick Kane sont quand même assez respectables. Mais quand même, tu sais, je pense que Gavin McKenna va avoir un potentiel de marqueur peut-être un peu plus élevé que Patrick Kane.
Yes. T'as-tu d'autres choses à rajouter sur McKenna?
Sérieusement, tu sais, je peux dire aussi, mettons, la sécurité du prospect, son risque de plafond. Je pense que Gavin McKenna, tu sais, c'est un risque sûr. Mm-hmm. Je pense pas qu'il y ait de risque en repêchant McKenna. C'est l'équipe où il tombe, je pense, ouais, que le seul risque. C'est un blessing in disguise pour Gavin McKenna de se ramasser à Toronto parce que oui, ça va être une super vedette. Il va avoir probablement, tu sais, si McKenna avait le choix d'aller à Vancouver ou à Toronto, je veux dire, oui, c'est deux équipes au Canada, mais le marché de Toronto reste avec du glamour, tu sais, ça reste Toronto. Ouais. La seule chose que je souhaite à Gavin McKenna, c'est que Keith Pelley reste le moins longtemps possible dans les parages. Tout le monde a vu ses entrevues. Ce gars-là, ce n'est pas... Il fait de super belles choses au basketball, mais ce n'est pas une tête de hockey. J'espère vraiment que Matt Sundin... Je connais pas tous les rôles que Matt Sundin a, mais j'espère vraiment qu'il va être le président hockey à 100%. Parce que John Chaika, c'est un bon gars d'analyste, mais ouais, est-ce que c'est le gars qu'il te faut à Toronto? Écoutez, moi, la saga Barrett Hayton, je la connais par cœur. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ce gars-là a massacré le futur des Coyotes en allant repêcher Barrett Hayton. Tu ne peux pas te permettre de faire ça dans un marché comme Toronto.
Non.
Écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va en venir, mais McKenna, sécurité du prospect, je l'ai noté à 9,5 sur 10. Son risque de plafond, parce que c'est quasiment sûr qu'il va atteindre son plafond, j'ai noté à 10 sur 10. Puis son style LNH, je l'ai mis à 6,5. Tout simplement parce que son physique est à travailler, ses prises de décision sont à travailler et sa discipline est à travailler.
Ouais, surtout ça, je checkais ses minutes de pénalité. C'est juste à Penn State, 35 games, 36 minutes de pénalité. L'an passé, 124 minutes de pénalité, je me trompe pas. C'est quoi, c'est un petit bâton qui laisse traîner si tu fais des petits accrochages?
Faudrait que je regarde ses minutes de pénalité à Medicine App, mais je me rappelle que...
129,
c'est pas passé. Je trouvais que
c'était... Ah non, excuse, pas 129, excuse, c'est point, excuse. C'est 60 minutes de pénalité.
Je me l'étais noté.
Excuse, 19 puis 36. Hey, je suis mélangé, je ne checkais pas à bonne place.
C'est pas grave, mais il faut prendre en considération que 36 minutes pour Gavin McKenna, c'est 60 minutes pour un joueur discipliné. Ce que je veux dire, c'est que McKenna n'a aucune raison de prendre des pénalités. Il n'est pas là pour brasser. Il n'est pas là pour jouer de l'échec avant. Il est vraiment là pour mettre des points au tableau, surtout à Medicine Hat. Fait qu'un 36 minutes de McKenna, il faut aussi prendre en considération que c'est 36 minutes de laisser traîner son bâton, là, tu sais, je veux dire.
Ouais.
On a tous vu ce que McKenna faisait là, à Medicine Hat l'an dernier. Il était dans une ligue à part, là.
Puis ça, je voulais te demander, son tournoi U20 cette année, je pense que ça a très bien été avec Team Canada, 14 points en 7 games. La seule différence, je pense qu'on s'est encore fait battre par la Tchéquie cette année.
La seule chose, moi, que j'ai pas aimé du tournoi de Mécana, c'est quand tu es considéré comme un joueur franchise, je m'attends à ce que tu sois le meilleur joueur sur la glace.
Ouais.
Moi, cette année, c'était Michael Hage, mon meilleur joueur. Ouais. Ça, j'ai mis un gros astérix parce que Michael Hage, à plusieurs occasions, a tout simplement volé la vedette, que ce soit en lecture du jeu, en entrée de zone, en présence défensive, il était dans une classe à part. Puis même si Chase Reed ou Carson Carroll n'ont pas connu des gros tournois offensifs, non, je trouve que leur présence défensive a été surprenante. Fait que, ça pour dire que je trouve que McKenna n'a pas été nécessairement... Oui, il a mis beaucoup de points au tableau, ça reste Gavin McKenna, mais... Lorsque McKenna joue avec des joueurs de sa taille, de son talent, je pense qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de lacunes dans son jeu, surtout dans ses prises de décision.
Tu sais, les trois derniers joueurs que tu as nommés, c'est trois joueurs qui sont disponibles pour le draft. Des joueurs de 18 ans, c'est rare qu'on voit ça avec Team Canada U20, fait qu'ils ont une bonne présence pour faire cette équipe-là aussi.
Ouais.
Yes, fait que ça termine pour Gavin McKenna. Merci tout le monde. J'envoie la fin d'intro, puis on va recommencer un autre épisode. Ça sera pas bien long.